Comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
3h30 d'une célébration interminable, celle du cinéma français hier soir à l'Olympia. On aurait presque regretté les soirées, même les moins réussies, des précédents Césars, c'est dire. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Carton plein pour Albert Dupontel et vide pour François Ozon. Un seul César pour le grand favori Emmanuel Mouret à travers Émilie Dequesne. Et au milieu de ce désert d'imagination, hier soir, les images terriblement nostalgiques de tous ceux qui ont disparu, autre temps, autre flamboyance. Heureusement, adolescentes, Laure Calamy, Samy Boisgila, Nicolas Marié, et de beaux espoirs pour sauver la donne et peut-être l'avenir. Pour commenter cette cérémonie et cette année presque blanche, une productrice et distributrice de cinéma. Bonjour Michel Halberstadt.
Bonjour.
À la tête avec Laurent Pétain et depuis 90 d'ARP, A Real Passion, oui. Une passion qui vous fait d'habitude voyager pour découvrir et révéler de nouveaux cinéastes sur la carte du monde. Alors, quels sont ceux qui marqueront ce nouveau siècle de cinéma? Petit jeu de pronostic avec vous, vos espoirs s'appellent Gu, Enyedi, Cantemir, Jérémy, Sam, Jairo, Johanna. Enfin, le cinéma à la maison, le lire, le regarder et surtout l'occasion de découvrir des classiques indémodables. Tiens, comme la vie est belle de Frank Capra. Mmh.
Je repense à la jeune provinciale que j'étais et je repense au Centre Dramatique National d'Orléans et au cinéma Les Carmes qui s'appelait autrefois le Mar 3. Où j'ai eu mes premières émotions. Ce festival Frank Capra, où j'ai découvert La vie est belle, où James Stewart, désespéré, veut se suicider. Et d'un coup, un ange un peu foireux de seconde classe va essayer de lui redonner le goût à la vie en lui montrant ce qu'aurait été la vie de sa ville et de ses proches, s'il n'avait pas existé. Et comme c'était plutôt un homme qui faisait beaucoup de choses pour les autres, voilà, le tableau était terrible sans son existence. Et je pense, du coup, à ce qu'on appelait des fous au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui ont décidé de créer la décentralisation, de créer des théâtres dans les provinces pour que l'accès à l'art ne soit pas uniquement parisien. Et sans tous ces James Stewart-là, la jeune provinciale que j'étais aurait eu une vie beaucoup plus sinistre. Voilà, donc laissez-nous assouvir notre soif de sens ou de non-sens. Laissez-nous exulter devant les œuvres d'art. Laissez-nous nous exiler dans nos imaginaires. Laissez-nous entendre ce qui fait de nous des êtres humains.
Il y a eu peu de jolis moments, mais il y a eu celui-là. Laure Calamy, César de la meilleure actrice, a très joliment évoqué hier soir à l'Olympia ses relais de la culture. En l'occurrence, toutes ces salles de cinéma fermées depuis fin octobre. Michel Halberstadt, qu'avez-vous pensé de cette cérémonie?
Tout ça pour ça. C'était bien la peine de nous dire, vous allez voir ce que vous allez voir, ouais. Ça, on va tout changer. Ben, ils n'ont pas changé grand-chose, à part le décor de l'Olympia. C'est assez joli, ces petites lumières à la place des fauteuils. Bon. Voilà, enfin, Marina Foïs était très bien, c'est pas la question. Mais on nous dit, vous allez voir, c'est Blanche Gardin et Laurent Lafitte qui ont fait les textes. Bon, voilà, moi, le côté caca prout-prout m'a jamais fait rire, donc c'est peut-être moi, mais voilà, est-ce que c'est vraiment fondamental la mère de devenue merde qu'on impose à Nathalie Baye qui fait semblant de trouver ça drôle.
Très embarrassant.
Voilà, la crotte qu'on ramasse. Le premier geste, ça a quand même été de ramasser une crotte par terre, même symbolique.
Enfin,
franchement. Voilà, quand on dit qu'on refonte les Césars, alors qu'on les refonte vraiment, on a eu, par exemple, alors évidemment, c'est ce que vous disiez, on a eu une nostalgie terrible de voir ce que le cinéma français a été. Voilà, quand vous voyez Sautet, les films de Sautet, les films de Rapneau, enfin,
les textes d'Abadie.
Ah là 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 là, voilà. certes. Mais en même temps, quand on a vu, par exemple, les images de ce sublime chef opérateur qui est Rousselot, on s'est dit, ah, bah voilà, on va parler du cinéma. Yann Dedet, voilà, on va parler de cinéma. Ils sont là. Ils sont pas là que pour lire une enveloppe. On peut aussi mettre un fauteuil, se poser, s'asseoir, se parler, montrer des images du cinéma en train de se faire. Peut-être qu'ils sont en train de travailler sur des films qui se sont arrêtés. Mmh. Eux, ils auraient pu parler des films qu'ils aimaient. Enfin voilà. On n'est pas obligé de faire que j'ouvre l'enveloppe, je fais une vanne, je tends mon César. Au suivant, on peut réinventer, c'est vraiment réinventer, faire autre chose. Ouais. Voilà, j'ai pas senti autre chose.
Elle n'a pas eu besoin de se déshabiller pour dire des choses. C'est Jeanne Balibar.
En France, les femmes de plus de 40 ans représentent 51% de la population et 8% des rôles. 8% des rôles, pas du temps de présence à l'écran. Là, on doit être à peu près à 2-2,5%. Ce qui a pour résultat que ne sont visibles, en fait, de femmes ayant dépassé le stade de denrées périssables, cependant que les hommes se bonifient d'année en année, ne sont visibles dans l'espace public que quasiment Muriel Pénicaud et Elisabeth Borne.
Pardon.
Ce qui est dommage. C'est dommage parce qu'elles ne sont pas représentatives. Elles ne sont pas représentatives de ce que l'on sait des femmes après 30 ans, qui est qu'elles s'occupent essentiellement de prendre soin des enfants, des malades, des personnes âgées, des autres, de la société. Tandis que ces deux-là, par exemple, très visibles, s'occupent essentiellement de détruire chaque jour un peu plus la société en trouvant que c'est une bonne idée, justement, là maintenant, de faire une réforme de l'assurance chômage qui précipitera encore plus dans la misère 2,2 millions d'intérimaires et de précaires qui travaillent dans tous les domaines de la société, nous le savons bien, et aussi dans le monde du cinéma, et de voter cette loi de réforme de l'assurance chômage qui entérine le principe de non-assistance à personne en danger au sommet de l'État. Tandis que vous, merveilleuses actrices et femmes qui êtes nommées ce soir, vous avez fait exactement tout le contraire de ça. Vous avez mis toute la force de votre âme, tout votre talent, et Dieu sait qu'il est grand, toute votre sensibilité, toute votre fantaisie, toutes vos contradictions au service de personnages qu'on appelle des seconds rôles, hein, qui plus est, second rôle parmi les seconds rôles, puisque féminin, et sans qui aucune histoire n'est possible. Bravo, merci.
Merveilleux, Jeanne Balibar, Michel Halberstadt. Roselyne Bachelot, absente des caméras.
Oui, je pense qu'elle pouvait quand même s'y attendre. Voilà, c'est sûr que là, Marina Foy, ça fait très fort avec le gorgonzola et le livre de cuisine que Roselyne Bachelot. Je ne sais pas comment tous ces ministres ne sont pas gênés de publier des livres qui n'ont rien à voir avec leurs fonctions. Je ne sais pas, c'est peut-être pas vraiment le moment. Donc oui, Roselyne Bachelot, je ne sais pas si elle était absente de la salle ou si Canal avait ordre de ne pas faire de plan de coupe sur elle. En tout cas, on ne l'a plus jamais revue.
Vous qui êtes distributrice, productrice, qu'est-ce que vous avez été nourrie hier soir de discours politiques, vous auriez dit autre chose, il fallait dire autre chose par rapport à la réouverture tant espérée des salles.
Je pense qu'il y avait de la colère, mais il n'y avait pas assez d'enthousiasme, il n'y avait pas assez d'amour. La foi dans le cinéma, je ne l'ai pas eue. Voilà, c'est ça qui m'a manqué. Je comprends, Jeanne Balibar était très bien, Marina Foïs, encore une fois, était très bien dans ce qu'ils ont dit sur la colère. Mais la colère, c'est une chose. Mais il faut expliquer pourquoi on l'aime, ce cinéma, pourquoi on en a besoin, pourquoi c'est notre raison de vivre, pourquoi ça nous fait battre le cœur, pourquoi de voir des images comme on en a vu trop peu hier, mais quand même si c'était des images passéistes, c'était des images, ce que ça nous fait, pourquoi ça nous nourrit, pourquoi ça nous aide à vivre, c'est ça que j'ai pas assez senti. Et pardon de ramener ça aux Américains, les Américains, quand il y a la cérémonie des Oscars, ils s'aiment pas plus que nous, ou moins, mais quand il y a la cérémonie, ils sont ensemble, ils sont soudés, ils sont une industrie. Celui qui perd est le premier à se lever pour féliciter celui qui gagne, vraiment. Il y a une espèce de solidarité qui dépasse tout, que je ne sens jamais dans les Césars français, et je trouve ça dommage.
En fait, ce qui était plus beau au César, c'est ce qui a eu lieu avant, c'est le clip de Yolande Zoberman sur les espoirs du cinéma.
Sûr. Ah ouais.
Vous vouliez parler du piratage, Michel Halberstadt, par rapport à justement à ce flot de films qu'on voit chez soi.
Mais c'est-à-dire que en ce moment, on peut rien faire et on n'est pas tous d'accord. Les exploitants poussent dans un sens, les distributeurs poussent dans un autre. Chacun y va de son domaine. Mais il y a un domaine sur lequel on est tous d'accord parce qu'on est tous punis. C'est le piratage.
Ouais.
Le piratage, qui est une chose terrifiante, qui fait perdre 1,5 milliard par an en France, au milieu à la filière cinéma, qui fait aussi perdre 300 millions de TVA à l'État, donc tout le monde est concerné. Alors maintenant, les chaînes de télé se réveillent parce qu'ils se rendent compte que pour le foot aussi, il y a du piratage. Alors peut-être que maintenant, comme les gros bras du foot s'en rendent compte qu'ils perdent de l'argent, peut-être que ça va réveiller tout le monde. Ce qui est clair, c'est que il y a l'offre et la demande. L'offre, c'est les circuits, les sites illégaux qui mettent en ligne les films. De ce côté-là, on a vraiment fait des progrès et on a diminué en 5 ans de moitié l'offre illégale. Sauf que, par exemple, on était descendu, si l'on peut dire, à 8 millions de téléchargements illégaux. Oui. C'est remonté à 10 pendant le premier confinement. On n'a pas les chiffres depuis, mais on peut imaginer que ça n'a pas dû aider. Le vrai problème, pendant qu'on s'attaque à l'offre, ce qui est déjà bien, même si on peut continuer et faire mieux, le problème, c'est la demande, c'est les consommateurs. Parce que Adopi, ils ont installé un système tellement compliqué de punition qu'en fait, ils ne sont jamais punis. Alors qu'il faudrait faire, comme pour les voitures, vous êtes mal garé, vous avez un PV, vous payez. Eh ben, ça devrait être pareil pour les gens qui piratent. Vous avez piraté, eh ben, c'est temps. Voilà. C'est simple. Alors, je sais que c'est pas chic, que c'est pas cool, que c'est tellement cool de pirater chez soi, que c'est incroyablement facile. Ben non, la musique, ils ont réussi à arrêter les téléchargements illégaux. Et je suis persuadée que les gens, ils veulent pas pirater pour être illégaux. Ils piratent parce qu'ils ont envie de voir des films qu'ils arrivent pas à voir autrement. Maintenant, il y a quand même une dizaine de sites de cinéma en France légaux où on peut voir énormément de films. Ça suffit le piratage. C'est aussi parce qu'on dit pas aux gens que c'est interdit. Donc on leur dit pas que c'est interdit. Voilà, tant qu'on leur dit pas que le chocolat, ça fait grossir beaucoup, ils continuent à manger du chocolat. Ben là, c'est pareil. C'est quand ça leur fera mal au porte-monnaie, c'est comme les gens qui fument trop, ben, ils fument moins parce que ça coûte cher. Et ben, pirater, si chaque fois que vous piratez, ça vous coûte beaucoup plus cher que ça ne vous coûterait d'être abonné à un site légal, et ben, vous arrêtez. Il faut le faire, mais il faut de la volonté.
Ouais. Votre métier, c'est repérer les films et les cinéastes dans le monde entier. Il faut rappeler quand même que la France est un très grand coproducteur de films, est un pays dans lequel on peut voir des films de tous les autres pays, ce qui est assez incroyable.
La France est un pays extraordinaire pour la culture. Ouais. C'est bien ce qu'on dit toujours, l'exception culturelle. Là, il faut pas qu'on la perde.
Au début de votre parcours de distributrice, il y a eu un chinois très important, un film qui s'appelait Épouse et concubine. Deux salles, 215 entrées le premier jour, et à la fin, avec votre énergie, votre enthousiasme, 300 000 spectateurs. On va faire un saut dans le temps, parce qu'en fait, vous allez nous livrer la liste de vos espoirs pour demain.
Voilà.
Des gens qui vont tracer la route, et ça commence justement avec un chinois magnifique qu'on a découvert cette année. Il a 32 ans, il a d'ailleurs tourné son film à 29 ans, il s'appelle Gu Xiaogang. C'est un peu le choc esthétique de son premier long métrage. Séjour dans les monts Fengshun, premier volet, annonce-t-il, d'une trilogie. Où l'avez-vous découvert, ce jeune chinois qui a eu beaucoup de mal à financer son film?
En fait, c'est la vendeuse productrice qui nous l'a envoyé. Et j'oublierai, vous savez, il y a des choses comme ça, c'est les moments où vous découvrez les films. C'est des choses, des moments qui restent gravés en vous. Et moi, je me souviens de ce film. J'avais l'impression qu'on m'avait mis une espèce de châle dans un super, super, super cachemire autour de moi. Et au bout de 2h30, je voulais plus en sortir parce que je voulais pas qu'on m'enlève ce châle. J'étais tellement bien à l'intérieur de ce film. C'est un film cocon. C'est, alors vous allez trouver que j'exagère, mais quelque part c'est Le Parrain en Chine. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une famille. Voilà. Oui. C'est l'histoire d'une vieille dame qui fête son anniversaire avec ses 4 fils. Et petit à petit, au cours du dîner, on comprend un peu qui sont les fils. Et puis la dame a un problème de santé à la fin de la soirée. Et puis vous allez voir comment les fils s'occupent d'elle et d'eux-mêmes. Et c'est la plus belle chose qu'on ait vue l'année dernière. Franchement, quand on a vu ce film, on était bouleversés. Et c'est les moments où vous avez envie de, je sais pas, monter en haut de la Tour Eiffel et de crier au monde entier. Arrêtez tout! Il y a un film qui va vous aider à vivre là, qui arrive.
Comment il a fait d'entrée à l'arrivée?
Il a fait 150 000 entrées France. C'était extraordinaire.
C'est énorme.
Mais il est sorti nulle part ailleurs.
On va écouter un petit morceau de ce film. Ça s'appelle donc « Séjour dans les monts Fengshun ». Il a commencé avec une caméra, et puis deux, et puis des rails, des grues. Au début, c'est son prof à l'université qui a fait ses premiers financements. Ensuite, il a eu des prix grâce au Rush. Ensuite, il a été voir des prêteurs sur gage, des emprunts à la consommation. Et enfin, il a rencontré un producteur. Donc, il s'appelle Gu Xiaogang, et vous pariez énormément sur lui, bien sûr.
Oui, il est en train d'écrire le numéro 2.
Oui.
Et il pense qu'il en fera 3.
Oui.
je peux pas vous dire, c'est à la fois un enfant, vous le voyez, il a des espèces de lunettes rondes, on dirait un étudiant pas tout à fait sevré.
Oui.
Et puis après, vous le voyez parler à son équipe et vous mesurez l'autorité. Non, mais puis, enfin, il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais. Vraiment, c'est un grand, grand, grand metteur en scène.
Elle est hongroise. Elle a réalisé un film fort remarqué il y a 30 ans. Ça s'appelait Mon 20e siècle, Caméra d'or à Cannes. Elle s'appelle Ignédi Ildiko, elle a maintenant 65 ans. Et s'est de nouveau fait remarquer en 2017 avec ce merveilleux film. On va écouter un peu quelques paroles, c'est Corps et âme. C'est du hongrois, donc corps et âme, part de cette idée, et si deux personnes avaient les mêmes rêves, et qu'ils s'en rendaient compte, que feraient-ils de cette connaissance? C'est une idée follement poétique, tournée dans un lieu absolument brutal, qui est un abattoir. Il est merveilleux ce film, Michel.
Merveilleux, Robert. Et je trouvais intéressant de mettre dans l'avenir quelqu'un qui n'a pas l'âge.
Oui, voilà, c'est un parcours tellement atypique.
Mais c'est
ça,
elle est incroyable cette femme. Et le prochain film s'appelle L'histoire de ma femme. Avec Léa Seydoux, paraît que c'est quelque chose de grandiose. Moi, j'ai énormément confiance dans cette réalisatrice. Et c'est vrai que Corps et âme est d'une poésie, d'une douceur et d'une brutalité en même temps.
Oui.
C'est ça que je trouve très très fort dans son cinéma, c'est qu'elle est capable de mélanger des sentiments tout à fait contradictoires dans le même plan.
Elle dit « Je voulais raconter une histoire d'amour qui nous ouvre le cœur ». Je pense que c'est
tout à fait réussi.
Je pense que c'est réussi. Vous aviez ah oui, et puis ce film a eu l'Ours d'or à Berlin, ouais, Corps et âme.
Absolument. Il n'a pas eu la carrière qu'il mérite.
Non.
Oui. Mais peut-être que le prochain avec Léa Seydoux va permettre d'asseoir sa carrière.
Il existe en DVD. Lui est russe, il a 30 ans, il a déjà réalisé deux films, Tess Nota en 2017 et Une grande fille en 2019, il s'appelle Kantemir Balagov. Il a été formé à l'école d'un autre cinéaste russe qui s'appelle Sokourov. Lequel cinéaste interdit à ses étudiants de voir et d'étudier ses propres films? Kantemir Balagov est aussi un scénariste, et on dit de lui, c'est un mélange d'énergie et de tendresse, Michel Halberstadt.
Oui, et de violence rentrée aussi. C'est quelqu'un de très étrange, quand vous le rencontrez, il est d'une grande beauté. Il a des tatouages le long de ses bras. Il est l'homme le plus à la mode que je connaisse. Enfin, les pulls de Kantemir Balagov, c'est un truc qu'il faut remarquer. Il est habillé comme personne. Magnifique. Il pourrait être designer de fringues. Vraiment, il a un œil très, très sûr.
Il détonnerait au César.
Oui.
De ce point de vue-là.
Et pareil, Tess Nota, le premier plan, je sais pas si vous vous souvenez, Tess Nota, le premier plan dans un garage d'une fille qui est sous une voiture. La manière dont le plan est composé, les couleurs, le sombre du garage et le bleu électrique que porte cette fille. Et en fait, très vite, on s'aperçoit que chaque personnage a sa couleur. C'est absolument incroyable. Ça fait partie de ces cinéastes où, dès le premier plan, vous dites, attends, arrêtez tout, là, il se passe quelque chose.
Ah, c'est ça, quand vous êtes dans un festival, vous voyez ça, vous vous dites, c'est bon.
Ah non, mais...
J'achète.
Moi, je me souviens, ce film, je l'ai reçu en lien à un moment... Peu avant Cannes, où on avait déjà beaucoup de films pour Cannes, où franchement, j'ai dit à la vendeuse, bon, écoute, oui, tu me dis que c'est bien, je vais le regarder, mais enfin, on n'a pas besoin de films en ce moment. Et puis ce film démarre, et voilà, la vie s'arrête, c'est le film qui vous choisit, en fait.
Тес Нота, Мишель Бершат, c'est le portrait d'une jeune femme juive dans le Caucase qui refuse un mariage imposé par ses parents. Et suivront une grande fille. C'est une chronique d'amitié dans un Leningrad en ruine en 1945. Vous distribuez ces films ou pas?
Absolument.
Les deux?
Les deux.
C'est-à-dire que maintenant, vous le suivez?
Ah ben, tant que je peux, je le suis. Vous savez, il arrive un moment où on ne peut plus suivre parce que...
À cause de financièrement?
Non, ça peut arriver financièrement. C'est plutôt le système des studios. Vous voyez, bon, pour l'instant, Kantemir, il a toujours le même producteur et donc la structure ne change pas. Mais les jours où il signe avec un grand studio américain, par exemple, vous les perdez.
Bah là, il va
Vous n'avez pas envie de le produire, par exemple, lui?
Mais il a un producteur, il
oui,
a pas besoin de nous.
Oui, mais en coproduction.
Oui, bah bien sûr, ouais. Pour l'instant, ça ne s'est pas trouvé parce qu'il n'a pas eu besoin de coproduction. Mmh. Mais bien sûr, je serais ravie. Mais en plus, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il a une petite amie qui s'appelle Kira Kulunenko, dont vous allez entendre parler très vite, parce qu'elle aussi, il l'a rencontrée à l'école de Sokurov, elle aussi a fait un film qui s'appelle Les Points Desserrés, le même producteur, les mêmes distributeurs en France, c'est-à-dire nous. Et vous allez voir que c'est quelque chose, les élèves de Sokurov. Parce que Les Points Desserrés, c'est quelque chose. C'est le portrait d'une femme, enfin d'une jeune fille coincée entre son père et ses frères. C'est pas un film dont on se remet facilement.
Donc ces héroïnes, elles sont très importantes. Moi j'aime beaucoup ce qu'il dit, enfin, elles sont les héroïnes de notre temps. Un homme qui se rebelle finit toujours par revenir à une certaine forme de tradition. Les femmes, elles, font vraiment exploser les cadres.
C'est exactement comme ça qu'il les filme. Ben, et je trouve qu'une grande fille, Tess Nota, on en a beaucoup parlé, une grande fille pas assez.
Un peu moins, oui, c'est vrai.
Sans doute parce qu'il a eu le culot d'aller aux antipodes de son premier film. Il a fait quelque chose de totalement différent. Une image absolument luxuriante dans des couleurs chatoyantes. Moi, je trouve que c'est un cinéaste immense. Il y a des scènes absolument inoubliables dans Une grande fille. Je pense qu'il faut revoir ce film si vous ne l'avez pas vu.
Les deux
existent dans un coffret DVD.
Oui.
Vraiment, quand Emir Balagov, retenez bien ce nom. C'est un nom qui va compter longtemps.
Tess Nota, Une vie à l'étroit et Une grande fille. Il y a un Français dans cette liste, un Français de 47 ans. Mais le temps est plus long quand il s'agit d'animation. Hein. C'est Jérémy Clapin. Et son premier long-métrage, J'ai perdu mon corps, initié, c'est fou quand même, initié en 2011 par son producteur Marc Dupont-Abbis, il sort en 2019. Il est adapté du roman de Guillaume Laurent, Happy End. Budget, mais pour ce film énorme, 4,8 millions, ce qui est rien par rapport à ce qu'on voit à l'écran.
Musique de Dan Levy.
Oui.
Et moi, je voulais absolument en parler d'abord parce que je voulais me avouer... mes fautes, moi, on me dit film d'animation, l'histoire d'une main qui cherche son corps, j'y vais pas, pardon, j'y vais pas, ça me fait pas envie du tout, c'est pas mon truc, ça m'inspire pas. Et puis, à force d'entendre, de voir les prix, d'entendre les gens, de lire des papiers, je me dis, bon, il y a peut-être un truc dans ce film, mais c'est une merveille. Alors, je sais pas comment on peut expliquer que c'est pas seulement l'histoire d'une main qui cherche son corps, c'est une histoire d'amour, tout simplement. Et c'est l'histoire d'amour la plus tendre, la plus bouleversante que vous pouvez imaginer. Il y a une scène où un homme parle par un interphone à une femme qu'il n'a jamais vue, qui est la plus belle scène de déclaration d'amour. Enfin, je sais pas, n'importe quelle comédie romantique n'arrive pas à la cheville de cette scène. Voilà, c'est un film, c'est un bijou. Même si vous n'aimez pas l'animation, même si Une main qui cherche son corps, ça ne vous dit rien. J'étais comme vous, je suis repentie. C'est une merveille. C'est visible sûrement sur tous les sites et en DVD. Mais ne ratez pas, j'envie ceux qui ne l'ont pas vu, ils vont passer deux heures sublimes.
En même temps, produire l'animation, c'est un job compliqué.
Ouais, c'est très compliqué. De toute façon, l'animation, c'est compliqué. Nous, on avait sorti le congrès d'Harry Folman. Le temps que ça a mis, c'était terrible. Et là, pareil, il fait le journal d'Anne Frank et ça fait des années et des années. La patience qu'il faut pour l'animation, c'est une chose incroyable.
Mais avec une belle filière française d'animation en ce moment, on a vu hier au César Joseph.
Absolument,
et puis
formidable.
Il y avait aussi Calamity qui est un très bon film.
Absolument, oui, on est très très doux là-dessus. Oui, il y a des choses à faire, absolument. Oui.
Et parfois, quand on voit des films dans les festivals qu'on aime beaucoup, mais qui sont trop chers. Ça arrive.
Ah, ça arrive souvent.
Est-ce qu'il y a des gens qui se surestiment, des producteurs qui surestiment leur talent
Oui, surestiment. En même temps, il y a toujours un dingue qui est prêt à payer. Donc, ils ont raison de surestimer. Ouais. Alors moi, il y a des cas où je me dis, bon, c'est pas juste parce qu'il choisit l'argent avant le travail. Parce qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres et pas forcément... je trouve l'art et la manière de travailler autour d'un film. Bon, mais oui, forcément, il y a des gens qui sont là pour l'argent. Et bon, c'est respectable. C'est pas mon truc, mais c'est respectable.
Et de même que vous en avez plus que d'autres pour acheter certains films.
Absolument, sans doute. Ouais. Mais il y a aussi,
c'est la guerre.
Mais il y a aussi certains films que je trouve très très beaux, dont Johanna Hogg, dont on parlera tout à l'heure, et qu'on n'achète pas parce qu'on se dit. Ça marchera pas, voilà, on le sait. Et donc, c'est d'autres gens qui l'achètent. Et effectivement, le film dont on parle, il a fait 1000 entrées. Bon.
Comment on fait pour épouser concubine, par exemple? Comment on fait pour entrer les gens dans les salles?
Mais épouser concubine, il faut que vous sachiez que c'est le premier... En fait, ARP, au départ, était une société qui fait du marketing et la promotion de pub. Mon mari, c'est ça, c'est son travail, c'était de faire... C'était une agence de pub cinéma. Et moi, j'étais rédactrice de première. Quand j'ai démissionné de première, on m'a offert plusieurs boulots, d'aller acheter des films pour d'autres boîtes, et Laurent m'a dit, t'as qu'à prendre un bureau, puis t'as qu'à acheter des films avec moi, on le fera nous deux. Et le premier film, enfin c'est pas le premier, c'est le troisième qu'on a acheté, c'était Épouse et concubine. Bon. Et ben le film sort et il fait 125 entrées Paris sur deux salles. Et Laurent m'a dit, Laurent m'a amené au restaurant, on a bu un bon verre de Bordeaux et il m'a dit ben on va fermer le département réquisition quoi. Voilà, c'était le premier, le dernier. Et puis le film est donc sorti un mercredi, 125 entrées, et le lundi suivant, Pierre Edeline, qui est mort cette année, qui était un immense programmateur des salles UGC et qui était à l'hôpital pour une grippe, nous a appelé de son lit d'hôpital en nous disant il se passe un truc sur votre film. Voilà, c'est le premier qu'il a vu, il se passait un truc sur notre film. Et là, Laurent a fait un truc dingue. On avait donc deux salles. Et puis petit à petit, ça a commencé à monter, le bouche à oreille a fait que les gens faisaient la queue. Et donc les salles nous appelaient en disant on veut des copies.
Là, c'est des copies, le temps des copies.
Hein. C'était copies, on les avait dans le bureau. Ouais. Et Laurent disait, non, vous savez, c'est à la Chine, c'est compliqué, j'arrive pas à les obtenir. Il a tenu comme ça pendant deux mois, sans donner de copies. Parce qu'il voulait que le bouche à oreille. Voilà, exactement. Et au bout de deux mois, on a commencé à ouvrir et on a fait au moins 300 000, je crois. Je me demande même si on n'a pas fait plus en un an et demi, sans jamais doubler le film. Donc c'était du sous-titrage pur. Et on est en 91. Mais voilà, ça nous arrive avec Sugarman aussi, ce genre de miracle. Ah, c'est très, très rare. C'est rare. Mais c'est vrai que quand vous faites très peu de salles, et que ça prend, quand ça prend, les gens ont envie de venir, et ils reviennent, et le bouche-oreille fait le reste. Mais pour qu'il y ait des oreilles, encore faut-il qu'il y ait des bouches, donc voilà, c'est compliqué.
Dans votre liste, il y a un Américain qui est le fils d'un célèbre réalisateur qui s'appelle Barry Levinson. Good Morning Vietnam, Rain Man, des hommes d'influence, entre autres. Son fils s'appelle Sam Levinson, auteur de quatre films dont le remarqué Another Happy Day présenté à Deauville en 2011, je m'en souviens, je l'ai rencontré. Ce type était super, super émouvant.
Un type qui est vraiment revient de très loin.
Un écorché vif qui a vécu une adolescence terrible. Junkie, entre cure de désintox, etc. Et en fait, c'est tout ça qui va mettre dans son cinéma et dans les séries. D'ailleurs, une série très remarquée pour les ados, qui s'appelle Euphoria, donc sur la rencontre entre une lycéenne toxico et un jeune trans. Et puis il conçoit un de cet autre film, malheureusement qui est pour Netflix. Je dis malheureusement parce que l'image est sublime, il pourrait être vu dans des salles incroyables. Magnifique. Il s'appelle Malcolm and Mary. On écoute un petit peu et on en parle après.
You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you.
Oh, he's so sensitive. He's romantic. I bet he's sweet, right?
Malcolm and Mary, une nuit avec un couple. Lui est cinéaste, il vient d'être acclamé à l'avant-première de son film. Elle, sa fiancée, l'a inspiré pour ce film sur le parcours d'une junkie, sauf qu'il ne l'a pas remercié dans son discours. C'est le point de départ de cette dispute. Et en fait, Michel Halberstadt, ce film Malcolm and Mary, il parle de tout le cinéma. Il parle de ce métier, il parle de faire des films, il parle de l'ego des réalisateurs, il parle des critiques, il parle de tout.
De tout, de tout. Il parle de la frustration de la comédienne qui est la muse, mais qui n'est pas assez remarquée en tant que muse. Il parle du couple, il parle de l'amour, il parle du narcissisme du couple. Alors, il y a des gens que ce film énerve, je ne sais pas pourquoi.
Moi non plus, je me demande.
Franchement, le film, alors, il a beaucoup regardé Eyes Wide Shut, surtout la partie de la scène entre Tom Cruise et Nicole Kidman dans la chambre, ça c'est clair. D'ailleurs, elle est habillée à un moment donné avec le même débardeur blanc.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment un hommage direct à Kubrick.
Il a regardé Cazavettes aussi un peu.
Il a regardé Cazavettes, il a regardé Godard,
pas mal de références,
il a pas mal de références, il ne s'en cache pas, il adore la musique, elle est magnifiquement bien utilisée, il aime ses acteurs, ses actrices. Je trouve atroce de lire qu'aux États-Unis on lui reproche de ne pas être noir et d'avoir mis en scène deux acteurs noirs, ce à quoi ils répondent, on a fait le film à trois, taisez-vous, vous êtes idiot.
Ouais.
Ce type a vraiment un talent énorme.
Ouais.
Il a tourné ça en 15 jours pendant le confinement. Ça ne se voit pas. C'est fait avec énormément de soin, énormément de cœur. Voilà, vous voyez, on parlait de foi dans le cinéma.
Ouais.
Il a la foi dans le cinéma.
Ouais.
Il a visiblement un amour profond pour la nouvelle vague aussi. Mmh. Il a la foi dans ses acteurs. Il a la foi dans l'amour. C'est un film extrêmement sensible, intelligent mais pas intellectuel. Ça parle beaucoup mais c'est pas compliqué.
Non.
Vraiment, si vous êtes attentif à ce qui est dit, vous verrez à quel point on en sort revigoré et avec l'envie d'aimer les autres, d'aimer les films, de prendre sa caméra et d'aller en faire ou de faire des photos.
Et d'avoir un peu de recul aussi par rapport à ce métier, c'est intéressant.
Il y a un truc très drôle, à un moment donné, il voit qu'il y a une critique qui est tombée dans un journal et il faut s'abonner mais il n'a pas sa carte de crédit. Et puis, il y a une espèce de moment de panique où Comment je fais pour avoir le papier? C'est très très drôle.
Et il est furieux, et à la fin, il dit... Et c'était une bonne critique, oui. En plus. Donc,
c'est ça. Oui, mais il en veut aux critiques, qui n'a évidemment pas vu ce qu'il fallait. Oui.
Reste deux nouveaux noms pour vous. Un guatémaltèque dans cette liste, Jairo Bustamante, auteur de 3 films, tous sortis en France, X-Canule, Tremblement... Et La Llorona, vous le distribuez aussi, lui?
On en a distribué 2 sur 3. On a le premier et le troisième.
Ce qui est dingue avec ce Bustamante, c'est qu'il a, en fait, il a réveillé une cinématographie. Il n'y a pratiquement pas de cinéma.
Quasiment. Il a créé une école. Et c'est extraordinaire ce qu'il fait pour son pays. Vraiment, c'est le CNC à lui tout seul, là-bas.
Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'école. Donc, il est parti à Paris et en Angleterre, je crois, pour étudier le cinéma. Mais il est reparti là-bas.
Alors voilà un exemple de quelqu'un qu'on va perdre pour les plateformes. Voilà. Parce qu'il a un projet sublime qui s'appelle Rita, qu'on devait faire ensemble. Et puis comme La Llorona plaît beaucoup aux États-Unis, son dernier film qu'on a sorti au mois de janvier, qui s'est très bien passé, ça a plu beaucoup aux Américains. Et donc Netflix veut financer le prochain. Et voilà, on va le perdre comme ça.
Tremblement, c'était très bien. On va écouter un peu de Tremblement.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Familia.
Dios.
Padre.
Anormal.
Yo.
Esto es una prueba, mi cielo. Pero usted es fuerte.
Très beau sujet, Michel Halberstadt, l'homophobie et le poids des églises évangélistes à travers l'histoire donc de Pablo. Cet homme pratiquant, marié, père de 2 enfants, qui tombe amoureux d'un autre homme et dont la famille va l'envoyer en thérapie de conversion. Et en fait, il raconte plein de choses sur son pays. À travers des histoires très intimes, Bustamante raconte plein de choses sur son pays.
Absolument, le premier X-Canul avait été un choc énorme. Il avait eu l'Ours d'Argent à Berlin, ce qui pour un premier film était dingue. Et il y en a aussi où il passe par les films d'horreur pour parler de la dictature.
Et du génocide des Indiens
Mayas. Oui, c'est quelqu'un de très très politique, de très social, qui a vraiment une conscience forte, mais qui n'assène pas. Il n'est pas militant. Il est profondément humain.
Ouais.
Donc, il trouve toujours le biais humain dans ces histoires.
Et on peut voir que les DVD existent de ces 3 films.
Absolument, on a sorti un coffret des 3.
X-Canule, Tremblement, La Llorona.
Absolument.
Donc, retenez bien ce nom de
Jairo Bustamante.
Bustamante.
Est-ce qu'au fond, l'idée serait que vous n'aimez pas profondément les stylistes qui ont des choses à dire? Si on voulait résumer.
Ouais.
Si on voulait vous donner une carte de visite,
c'est mieux d'avoir un truc à dire quand même. Non,
oui, mais on peut être un styliste qui n'a pas grand-chose à dire, ça existe. Et on peut avoir aussi des gens qui ont des choses à dire, mais le style, on s'en fiche un peu.
Oui, mais ça, il y a des cas où ça me dérange pas avoir des choses à dire. Il y a des films où je dis souvent, c'est pas pour le cinéma, c'est pour ce que ça raconte.
D'accord.
Voilà, bien sûr, oui. Absolument. Mais j'aime mieux le message sans style que le style sans message. Voilà, s'il faut choisir, absolument.
Et voilà, qui dit.
Ah bon. On va terminer par une Anglaise super intrigante. Elle s'appelle Johanna Hogg. Mais on n'a vu aucun de ses films en France.
Le souvenir est sorti, mais personne ne le sait, quoi. Voilà.
C'est
terrible. Et elle est en train de faire le deuxième. Le souvenir, mais regardez la bande-annonce, vous allez tomber en amour.
Justement,
moi, j'ai vu le film.
Eh ben, on l'écoute.
I have not got that much room.
You've got a foot on that side.
That's
and I literally am on a ledge. I've got nowhere left to go.
Do you think she suspects that you creep down to our bed?
No.
I thought we'd put Anthony down the end. It's not that kind of relationship anyway, is it?
If she does, that was an amazing performance.
Johanna Hogg, elle a 62 ans, donc elle n'est pas toute jeune non plus.
Mm-hmm.
Ça ne se voit pas dans le film. Comment on peut définir son cinéma, Michel Halberstadt?
Oh là là, terriblement anglais, vraiment. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un classicisme à la Sœur Brontë, si je peux dire, et une espèce d'ironie pointue, mordante. Alors ce qui est intéressant, c'est son casting. Il y a Tom Burke, qui est mon idole, si vous avez vu Hank, c'est lui qui joue Orson Welles.
Ouais.
Si vous avez vu The Crown, c'est lui qui joue le petit ami de Margaret, qui aime bien boire avec elle.
Ouais.
C'est un grand, grand acteur, ce Tom Burke. Et l'actrice, c'est la fille de Tilda Swinton, qui joue avec sa mère.
Ah oui.
Qui est extraordinaire. Elle s'appelle Swinton Byrne, elle s'appelle.
D'accord.
Et c'est la fille de Tilda, et Tilda joue avec une mère très très élégante, aristocrate. Donc ce qui est formidable dans ce film, c'est l'histoire d'une gamine aristocrate qui décide de faire du cinéma, et tout le monde lui rit au nez en disant, attendez, vous êtes gentil, vous descendez de votre château pour venir filmer les pauvres.
Ce qui est un peu le destin de
ce qui est tout à fait le destin de Johanna Hogg. Et puis elle tombe amoureuse de ce garçon qui est joué par Tom Burke, dont on s'aperçoit qu'en fait il est totalement héroïnomane, et voilà. Et en fait, sortant de cette histoire d'amour qui va la meurtrir terriblement d'un seul coup. Elle a vécu suffisamment de choses pour aller vraiment faire un bon film.
Bon, ce souvenir, il existe en DVD ou non ?
Je ne sais pas. Il a été sorti en France. Il a fait 1000 entrées. Mais pareil, alors là, c'est le truc, vous le voyez à Sundance. Il se passe un truc à Sundance. Le vendeur vous demande un prix qui est totalement déraisonnable. Donc, vous laissez passer. Et puis, c'est quelqu'un de plus petit qui le fait, qui le sort, qui n'a pas les moyens. Et puis, voilà, le film n'existe pas, malheureusement. Mais merci. Voyez-le. Hein.
Ouais, merci pour cette liste d'espoirs.
Alors, juste
espoirs.
Vous dire, elle est en train de faire le numéro 2, et c'est Pattinson qui va jouer dans le deuxième. Donc, d'accord, peut-être que ce coup-ci, on en entendra parler.
Ce petit acteur-là.
Ce petit acteur américain. Qui monte.
On se retrouve après Django, qui rencontre Charlotte Gainsbourg. On va parler de du cinéma.
Oui, nous sommes surpris.
D'un coup, je me réveille.
Nous sommes surpris, faut le dire.
Ah, on va commencer par deux livres et par celui-là, 100 grands films de réalisatrice de Véronique Lebris. Ah,
oui. Oui, préfacé par Julie Gaillet. Allez, tiens, on vous l'offre tout de suite, Michel Berchtat.
Je voulais me l'acheter en plus.
Bon, ben tant mieux. Il vient après dans une même collection après les 100 grands films pour les petits de Nicolas Boukrieff. Et c'est le même principe, c'est-à-dire c'est une double page sur chacun des 100 films choisis. Depuis Alice Guy, la pionnière, la méconnue, la cinéaste aux 200 films qu'on ne verra jamais ou très peu en tous les cas, jusqu'à Céline Sciamma évidemment et sa jeune fille très 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 récemment. Alors évidemment on peut chipoter dans ces cas-là, on peut se demander est-ce que vraiment La Bûche de Daniel Thompson ou Little Joe de Jessica Hassner ont à voir avec ce livre et cette démarche. Bon, chacun jugera. On trouvera surtout des pépites comme cette Dérive, le film de Paula Del Sol qu'elle a fait en 1964, qui est un incroyable portrait d'une jeune fille de l'époque. Et ça vraiment c'est un film méconnu qui existe en DVD, donc le livre porte un bel éclairage dessus. On évacuera le soin, ou on laissera au soin aux autres de débattre sur le sexe des anges et des réalisateurs et des réalisatrices, peu importe au fond, mais l'important c'est que ce livre eh bien, nous donne à voir et à envie, et nous donne envie de voir et de revoir la plupart de ces films-là, faits effectivement par des réalisatrices. C'est chez Arte et Grund et ça s'appelle 100 grands films de réalisatrice de Véronique Lebris.
L'important c'est qu'il soit bon, qu'il soit réalisé par des hommes ou par des femmes.
Nous sommes d'accord.
Un grand film italien, Buongiorno Notte, d'un grand cinéaste italien, Marco Bellocchio, est décrypté dans le numéro 629 de la revue L'Avant-Scène, Laurent.
Mais oui, qui est toujours une très très belle revue de cinéma. Vous savez que son principe, c'est de donner l'intégralité du découpage, même pas du scénario, c'est l'intégralité de ce qu'on voit sur l'écran. Donc c'est extrêmement précieux, pas seulement pour les étudiants en cinéma, mais ça donne un magnifique reflet de ce qu'est le film. Et puis, il y a tout un travail éditorial autour de cet incroyable film sur le deuil, sur l'image, sur le regard, qui est le film de Bellocchio. Il y a donc le découpage intégral, je le disais, mais il y a aussi des dessins préparatoires de Bellocchio, ça c'est passionnant. Il y a un bel article de Jean Gilli, le grand spécialiste du cinéma italien. Il y a un portrait par René Marx du réalisateur Bellocchio. Il y a un retour sur l'affaire Aldo Moro, puisqu'on l'a pas dit, mais c'est un film sur l'affaire Aldo Moro. Donc franchement, et un éclairage sur les Pink Floyd aussi au cinéma, parce qu'il y a un morceau des Pink Floyd qui parcourt le film. Bref, c'est un très très beau dossier sur ce film qu'il mérite amplement. Je le rappelle, c'est donc le numéro de l'avant-scène cinéma.
Deux DVD, Jardin de pierre, 1987, Francis Ford Coppola, c'est le jardin, c'est ce cimetière d'Arlington, en Virginie, et l'histoire d'un sergent qui est inhumé, Jackie Willow.
Oui, parce que 8 ans après Apocalypse Now, en quelque sorte, Coppola fait une sorte de second volet, mais qui ne se passe pas sur le terrain des opérations, mais qui se passe à l'arrière, chez ces soldats qui font un corps d'élite autour du président américain, mais qui ne théoriquement ne sont pas chargés de faire la guerre. Et c'est toute l'histoire de cette autre façon d'être militaire dans un contexte de guerre qui est tout à fait passionnant, avec un James Caan extraordinaire, vraiment épatant. C'est un très beau combo Blu-ray DVD de chez Carlotta, on n'a pas encore dit, Jardin de pierre de Francis Coppola chez Carlotta, avec là aussi notamment la reproduction du dossier de presse français, et c'est toujours intéressant de revoir un petit peu les dossiers de presse de l'époque, moi je trouve ça assez savoureux.
À propos d'Apocalypse, je voudrais juste signaler quand même que ARP, votre société, a distribué le plus grand making-of du monde, oui, qui s'appelle Au cœur des ténèbres.
C'est vrai.
Ah oui. Donc sur ce film le plus dingue, génial, le tournage le plus dingue de l'histoire du cinéma. L'autre DVD, c'est Cromwell, 1970, de Ken Hughes, Rimini édition.
Une découverte pour moi, je connaissais pas ce film de Ken Hughes. Ken Hughes, attention les boomers, c'est le réalisateur de Chitty Chitty Bang Bang. Ça, c'est toute ma jeunesse, franchement. Alors il a fait d'autres films, mais surtout celui-là, Cromwell. Et c'est vraiment un très très grand film de grand spectacle. C'est impeccablement réussi, à la fois dans l'évocation des batailles, donc dans le grand spectacle, mais aussi dans tout ce qui est la transcription de l'histoire politique et du destin exceptionnel de cet homme, effectivement, tombeur d'un roi, favorable à la République et à la démocratie, et qui se conduira de façon tout à fait impeccable. Il est joué à la perfection par Richard Harris, ouais, qui tout au long du film perd sa voix progressivement, tant il essaye de convaincre les autres, on a l'impression d'avoir aussi Depardieu dans Tombe Vajda, vous savez, qui perdait sa voix, ouais, au moment où il faut avoir toute sa voix. Non, c'est vraiment un très beau film.
Il y a Alec Guinness quand même dedans.
Et il y a Alec Guinness qui joue le roi pusillanime, absolument, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Cromwell, combo, Blu-ray, DVD, avec un très beau livret aussi, très explicatif sur le film, c'est chez Rimini.
L'autre cadeau pour Michel Halberstadt, le cadeau principal, pour la première fois en coffret, 3 Blu-ray en version restaurée, une étonnante trilogie, Outside, signé Maurice Engel et Russ Orkin.
Ah, merci.
C'est Carlotta qui nous donne vraiment ce très très beau cadeau, parce que au centre, il y a le petit fugitif, hein, 1953, c'est, comme le dit Alain Bergala dans un très beau bonus avec son brio habituel, c'est le chaînon manquant entre le néo-réalisme italien et la nouvelle vague française. C'est un film, faut savoir que il a été défendu par Bazin dans les cahiers du cinéma, sur 3 pages, et défendu par Bazin, c'est pas mal, parce qu'il il descendait assez peu dans l'arène pour défendre les films. Et dans ce même numéro, figurez-vous que Truffaut fait son article sur une certaine tendance du cinéma français. Comme si le petit fugitif illustrait le propos de Truffaut, tant et si bien d'ailleurs que Truffaut, manifestement, effectivement, s'inspirera pour ses 400 coups, notamment, de ce petit fugitif. Donc c'est un couple de cinéma qu'il faut absolument redécouvrir. Ce coffret lui donne toute l'écrin nécessaire, avec beaucoup de bonus, des courts-métrages, des documentaires, et puis ces films à voir. Et d'abord, Le Petit Fugitif, s'il vous plaît. Enfin, je pense que vous le connaissez, Michel Albert Stapné.
Ah oui, c'est
un chef-d'œuvre absolu.
Ah, il y a une femme extraordinaire dans ce couple, donc c'est Russ Orkin. Moi, je suis allée voir un peu sur Wikipédia la vie folle de cette fille, née en 21, mère actrice du muet, à 10 ans, son premier appareil photo. À 17 ans, elle traverse l'Amérique à bicyclette. Elle veut devenir cinéaste. C'est réservé aux hommes. Elle rencontre Maurice Engel et grâce à lui, elle va faire du cinéma. Donc,
exactement,
elle va être monteuse, co-réalisatrice, co-scénariste. Elle fait tous les métiers, femme remarquable.
Un grand couple de cinéma. Ouais.
Est-ce que vous reconnaissez cette voix, Michel Halberstadt?
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief.
Pourtant, vous le connaissez, cet homme?
Oui.
C'est celle de Sigmund Freud.
Non.
Si. Sigmund Freud qui se retrouve.
Vous cherchez dans le cinéma, j'étais loin.
Qui se retrouve. C'est le seul enregistrement sonore
incroyable
de Freud.
Je peux écouter?
En langue anglaise.
important new facts about the unconscious in psychic life.
Merci.
Donc ça va de Sigmund Freud qui se retrouve au cœur de votre livre, oui. Né quelque part chez Albin Michel, une enquête sur vos racines, autrement dit, comme vous l'avez dit, un polar autobiographique. Vous avez regardé dans le passé d'un homme, votre père, un homme taiseux, et en remontant les générations, vous avez retrouvé donc un certain Max Halberstadt, photographe et gendre de Sigmund Freud, et du coup, vous donnez une nouvelle image de Freud comme un bon patriarche.
Mais c'est une image que je ne m'attendais pas à trouver.
Ouais.
Mais qu'à travers
ses...
Oui, dans ses correspondances, on découvre à quel point cet homme qu'on imaginait froid, distant et misogyne était un père incroyablement présent, aimant, concrètement
aidant
et féministe. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la contraception de sa fille et écrit au médecin en disant qu'il faut aider les femmes qui veulent pas avoir d'enfants à ne pas en avoir quand elles n'en veulent pas. En 1920, c'est pas vraiment l'image qu'on avait de Freud.
Merci pour ce roman très émouvant, vraiment, qui s'appelle donc Né quelque part chez Albin Michel, merci.
Lisez-le.
Pour... Oui.
On vous le recommande.
Merci pour vos commentaires après ces Césars 2021. On va vous laisser le générique, Michel Halberstadt, et on va tous vous dire au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. C'est Georges Delerue qui a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation de l'émission. Une émission qui est réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. L'émission est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. C'est la plus belle émission de cinéma sur les radios. Et moi, Michel Halberstadt, j'ai eu la chance d'y être.